Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de Fanissa, le podcast qui donne la parole à de nouveaux rôles modèles féminins.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le talk show Fanissa. Aujourd'hui, je suis en compagnie de trois magnifiques jeunes femmes, comme d'habitude, et nous allons parler des impacts de la sous-représentation, donc du poids que la sous-représentation a dans notre construction. Et je vais laisser chacune déjà se présenter pour commencer. Donc, Ashley, vas-y.
Je commence ? Ok. Bah, bonjour à tous. Je m'appelle Ashley Auguste et je suis la créatrice en fait, d'un personnage pour les enfants qui met en avant bah, la diversité par sa propre diversité.
Ok, voilà. Qui s'appelle du coup
Little Navi.
Perfect. Charlie.
Bonjour, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Charline, je suis derrière le blog Mon Fils en Rose, qui parle d'éducation non genrée, du moins la moins genrée possible, d'antiracisme, de décolonisation, de féminisme, et qui présente toute une bibliothèque avec des livres avec toute une diversité de représentations, parce que ça compte.
Je suis Amphi et je suis artiste et j'essaye de travailler sur les sujets de sexualité, de post-colonial et aussi de questions post-coloniales et de spiritualité. Je fais partie du collectif Spicy Devi. On est 5 et on travaille, en fait, on a travaillé à créer une plateforme donc, de féminisme décolonial.
Parfait. Merci les filles pour votre présence. Je suis ravie de vous avoir. Ma toute première question pour vous, c'est à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous faisiez partie d'une minorité en France ?
C'est
très bien.
Tu rentres direct. moi, mes premiers souvenirs, vraiment, genre, je pense que j'ai 6-7 ans, tu vois, c'est l'école primaire, c'est direct les chintocs, tu te tires les yeux. J'ai en fait, à ce moment-là, je viens d'arriver dans une petite ville en banlieue parisienne et on est la seule famille asiatique, voire peut-être même une des rares familles racisées d'une manière générale. Et voilà, ça commence dès la rentrée et c'est compliqué, tu vois. Mais voilà, après, ma mère, c'était plutôt genre, c'est de la bêtise et fais ton chemin, tu vois. Mais ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et encore, ça veut dire que je m'en suis rendu compte, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis maman, et en fait, c'est... Là, aujourd'hui, l'enfant a 4 ans, et c'est déjà fait. C'est juste qu'il se rend pas compte, mais déjà subi des noms, voilà, juste pour ce à quoi il ressemble, en fait.
Mmh. Ok. Toi, Ashley ?
Moi, alors, en fait, il n'y a pas de date où je me suis dit, ah, en fait, je suis partie d'une minorité. C'est vraiment un ressenti qu'en grandissant, donc c'est pas, je dirais pas école primaire, je dirais plutôt préadolescence, adolescence, quand j'avais besoin de modèles en fait. Mmh. Et que je me suis rendu compte que tous mes modèles, ils étaient américains. À aucun moment, j'avais un modèle français. Pourtant, je me suis dit, je suis en France, mais mes modèles, c'était vraiment les chanteuses, les actrices, tout ce qui se rapportait à ma couleur de peau et qui, où je me sentais représentée. Et c'est là que je me suis dit, ah, en France, il n'y a pas ça, c'est pas pour nous. Donc j'allais aux États-Unis en me disant, c'est là-bas qu'il y a des gens comme moi.
Ah ouais.
Ouais. Okay, c'est comme ça que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas... Bon, on est là, quoi. mais sans plus.
On est un petit peu là.
Ouais, exactement.
Ok.
Donc, je dirais que c'est là.
Cool. Toi, du coup, Amphi ?
C'était comme Charline, c'était à l'école primaire aussi. J'ai grandi à l'étranger, donc pendant plusieurs années, j'ai été épargnée. J'étais en Afrique, en plus, donc c'était pas une majorité blanche. Donc, c'était pour moi... naturel, j'avais l'impression d'être moi, juste un être humain. Et c'était quand je suis rentrée en France, justement, alors que j'étais toujours dans un milieu pas forcément blanc, mais c'était un milieu pauvre, donc il y avait quand même beaucoup de personnes de couleur. Mais je me rappelle qu'il y avait un événement qui a été un peu déclencheur pour moi, où il y a eu un enfant qui est, lui, algérien, qui m'a poussée dans la cour en me jetant par terre, en me disant... sale noire. Et c'était la première fois que j'entendais ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais pas blanche. Mais avant, je me croyais blanche, en fait. Moi, je croyais vraiment que c'était liberté, égalité, fraternité. Je croyais au mythe de la République qui disait que j'étais juste une enfant de la France, j'étais française. Donc avant ça, il n'y a pas eu d'ambiguïté, en fait. Je savais que j'étais indienne aussi, mais je pensais que tout le monde avait ses trucs. En plus d'être français, enfin, il n'y avait pas de problème, mais je ne voyais pas qu'il y avait un truc de minorité.
Okay. Même en grandissant dans un pays du coup pas noir, parce que à ce moment-là, tu te considérais comme blanche ou tu te considérais même pas, enfin, t'avais pas d'idée de couleur peut-être,
en fait. C'est ça, ouais, j'étais plutôt, je pense, colorblind. Enfin, je voyais des petits enfants noirs, des petits enfants blancs, des petits enfants d'autres pays. Il y avait beaucoup de Libanais, par exemple. Enfin, c'était pas un sujet, en fait. C'était juste, ouais. On était des enfants. Et dans les lycées français étrangers, j'ai beaucoup grandi comme ça, en fait. Enfin...
Ok, hyper intéressant.
Et violent.
Ouais, grave.
Et toi, est-ce que tu te souviens?
Ouais, c'est vrai.
C'est une très bonne question que je me suis même pas posée, en fait.
Tu vois?
Si, en fait, c'était à l'école aussi. C'était aussi à l'école, parce que moi, du coup, j'étais à l'école. Bon, je suis en France, j'ai grandi en France, et j'étais à l'école, mais j'étais en banlieue. Donc, du coup, il y avait beaucoup plus de mixité sociale, on va dire, enfin, mixité raciale, que quand je suis arrivée dans Paris, on va dire. Mais encore, je faisais quand même partie des minorités. Mais c'était un peu comme toi, en fait, où effectivement, je voyais pas trop. En fait, on avait tous nos origines, en fait. On était tous tellement fiers de nos origines, mais on était très fiers de pouvoir être tous ensemble, et donc, du coup, de connaître très bien... tu vois, enfin très bien les origines des autres et de connaître ton pays, il est là, ta religion c'est ça, telle fête c'est ça et tout, on était très contents de partager tout ça. Et c'est quand je suis arrivée dans Paris, où là vraiment on comptait les Noirs sur les doigts d'une main, et pas que les Noirs, hein. Il n'y avait pas d'Asiatique d'ailleurs, il n'y avait qu'une fille qui était Sri Lankaise, les gens étaient là, c'est quoi le Sri Lanka? Et moi j'étais là genre, est-ce qu'ils demandent vraiment ça, tu vois? Et c'est là où je me suis rendu compte, ah ouais, en fait on n'est vraiment pas beaucoup. C'est à ce moment-là, ouais, mais aussi à l'école. Et surtout au collège, où j'étais vraiment... Je me comptais sur les doigts d'une main. Ouais. C'est violent, hein, c'est vrai.
C'est dur, là. Ce moment-là où je crois, genre, vraiment, tu réalises que t'es pas comme les autres, en fait.
Ouais.
Et enfin, ça te met une... Ça remet tout de suite une distance, tu vois.
C'est clair. Et je trouve que ça crée... Enfin, moi, j'ai l'impression que très tôt, ça a cristallisé beaucoup de choses. C'est-à-dire que je me suis dit, personnellement... Je me suis dit, ok, je ne suis pas blanche. Il y a une fois, ma mère m'a raconté que quand j'étais petite, je voulais être blanche, j'avais pleuré et tout. Je disais, oui, mais moi, je veux être blanche, je ne veux pas être noire. Ça me fait mal. Et aujourd'hui, j'ai honte.
Tu ne te souviens plus? Tu vois, non, mais ça a dû être un jour comme ça.
Je me souviens pas que j'ai... Ouais. Et puis aujourd'hui, ça me paraît tellement scandaleux de me voir petite pleurer parce que je veux être blanche. Et aujourd'hui, j'étais juste tellement fière d'être noire, je me dis, mais comment ça a pu se passer? Et qu'est-ce qui a pu se passer dans ma tête pour
qu'est-ce
que je me sente...
Qu'est-ce qui a pu se déclencher pour que tu dises ça, ouais. Cette journée-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais.
Bah, c'est genre le quotidien d'une enfant qui se fait moquer parce que, parce que noire. Enfin, je veux dire, moi, j'ai petit neveu, il a rentré de l'école, il a dit à sa mère, je veux plus être marron, quoi. Enfin, c'était pas je veux être blanc, mais je veux plus être marron parce que c'est trop dur, c'est, tu vois, genre... tout ce qu'on prend tous les jours sur la couleur de peau, et mon enfant il a une peau claire, et on lui a déjà dit que sa couleur de peau était moche, quoi.
Mais c'est même pardon,
il a 4 ans, enfin.
Ouais. Mais en fait c'est la suite logique, ce genre de réaction, en
bien
fait
sûr.
C'est d'un système qui est bien organisé pour nous faire vouloir être l'élite, enfin les personnes blanches, c'est, je sais pas, 10%, j'ai pas que ça à faire de compter les blancs sur Terre, mais c'est pas la majorité du tout, en fait. Mais pourtant, c'est eux qu'on voit partout, dans les représentations et tout ça, justement. Donc, c'est normal qu'en tant que petite fille, on a envie d'avoir, d'être héroïne ou chanteuse, ou je voulais pas être pauvre. Donc déjà, ça me saoulait d'être pas blanche. Parce que moi, ma famille, ils étaient tamouls, ils parlaient tamoul et tout, et ils étaient juste pauvres, et c'était pas ce que je voulais, donc c'est normal d'arriver à ça, quand, en fait, les structures de racisme et tout, elles sont tellement profondes, ben, bien sûr qu'on ne veut pas l'être.
Parce que s'il y a que ça que tu vois, tu le vois partout, tu vois dans les livres, tu vois dans la télé, tu vois les stars, enfin, tu vois, je veux dire, à part quelques stars américaines, tu vois, genre, c'était la seule chose, tu vois, genre, d'où le rêve américain. Mais il y avait, si tu veux, il y avait, et encore pour beaucoup de noirs, et noirs un peu blanchis, si on veut aller jusque-là. Hein. Mais donc, en fait, c'est tout ce que tu vois et c'est tout ce qu'on te renvoie. Donc, forcément, c'est ce que le système, il crée cette envie. Tu vois, il crée cette envie et ce besoin d'être représenté parce que le miroir, ça suffit pas. Tu vois, et ta famille, ça suffit pas parce que, bah, parce qu'elle est pas valorisée. Pas valorisable, et beaucoup, et moi je fais partie, on s'est construit en dehors. Moi j'ai beaucoup fui la communauté pour y revenir, mais en fait, parce que ma grand-mère elle était pas valorisable, tu vois, alors qu'elle était ultra badass, tu vois, genre, et que je suis trop fière aujourd'hui En fait, en vrai, j'ai toujours été fière, mais de l'assumer, de le dire et de, voilà, d'être fière d'être asiatique, d'avoir tout ce qu'elle a pu faire. Mais je la vois jamais, je la voyais jamais. Et aujourd'hui, dès que je vois dans un album, plusieurs qui sortent, notamment aux États-Unis, parce que les paroles se libèrent aussi, mais voilà, quand je vois un grand-parent asiat, tu vois, genre, je suis là, genre, je suis, oh, c'est trop bien, tu vois, et je veux ça pour mon enfant,
bien sûr.
Mais le truc aussi, c'est par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait de ne pas avoir de... En fait, en tant qu'enfant, moi, j'ai tout de suite compris, c'est rationnel, en fait. Il n'y a pas... Les avantages d'être non-blanc ne sont pas visibles. On ne voit que les problèmes. Donc, bien sûr qu'on ne veut pas ça. Enfin, c'est franchement, si on est hyper rationnel en mode coût-bénéfice, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Tout le monde choisirait d'être dominant. Et dominant, ça veut dire soit homme... Bien sûr, homme blanc. Voilà, donc il n'y a pas de... Enfin, moi, je ne vois pas en quoi il y avait une honte de... Aujourd'hui, je me dis, mais j'étais trop rationnelle. J'étais logique, en fait, comme kid, quoi. C'est juste... Et aujourd'hui, en fait, l'important pour moi, c'est de découvrir qu'en fait, les privilèges sociaux sont en fait des handicaps, parce que ça nous... En fait, les privilèges... On a beau dire que, enfin, c'est pour ça qu'on est là, on dénonce des privilèges, ok, mais en fait, ils sont hyper handicapants, ces privilèges. Donc, par exemple, si j'étais une femme bourgeoise blanche, il y aurait un carcan aussi qui s'imposerait à moi. Donc, oui, je bénéficierais d'argent, mais en fait, je le paye, ce truc. Je le paye de ma vie, de ma liberté, etc. Ma sexualité pourrait pas s'exprimer de la même façon, des choses comme ça. En fait, ce que j'essaye, moi, dans mon travail, c'est de faire, c'est de visibiliser les intérêts, les bénéfices à être non-blanc aussi. C'est par exemple, en tant que femme de couleur aussi, ce que j'ai découvert, c'est que comme j'avais pas de représentation, ben, j'ai dû aussi créer la mienne. Donc, c'est super parce que ça me donne beaucoup de liberté. Il y a eu un vide à remplir et ça a créé de la créativité en moi. J'ai un monde imaginaire hyper riche. C'est aussi grâce à ça, en fait.
Tout à fait. Tu pars d'une faiblesse pour en faire une force.
Voilà.
Mais t'as raison. C'est ce que je voudrais faire avec les enfants, en fait. C'est vraiment leur faire, les aider à célébrer leur richesse, c'est-à-dire leur double culture, entre guillemets. Parce que pour les enfants, bah, en fait, ils sont dans un monde, entre guillemets, occidental, tu vois. Mais ils ont une double culture. Donc, ils ont l'habitude, enfin, pas l'habitude, mais l'automatisme de privilégier leur culture occidentale aux dépens de celle de leurs parents immigrés, comme moi, tu vois. Je suis franco-haïtienne, mes parents, ils sont nés en Haïti, moi, en France. Bah, je me suis toujours sentie plus française qu'haïtienne. Bête, alors qu'on parle la langue créole chez moi, on mange de la nourriture caribéenne tout le temps. Mais moi, pour moi, j'étais française. Et je voulais pas forcément mettre en avant le côté haïtien, en fait. Haïtien, parce que je voyais pas forcément les intérêts, comme tu disais. Et c'est pas valorisé. Sachant qu'aujourd'hui, bah, la France, elle devrait prendre en compte le fait que bah, c'est multiculturel. Il y a plein d'enfants qui ont une double culture. Donc, il faut mettre en avant les deux richesses, les deux cultures de chaque enfant. Pas juste une, tu vois. Où on disait aussi qu'il fallait qu'il parle plus français à la maison.
Ouais. Mais ça, en fait, je pense que c'est...
Ça fait partie du truc pour tuer justement l'autre culture qui n'existe plus en toi, quoi.
Mais je pense que c'est ça le problème en France. C'est qu'en fait, si tu veux être français, il faut que tu sois rien d'autre.
Ouais, mais non.
Mais sauf que ça marche pas.
C'est pas possible.
Ça marche pas.
Une personne qui a deux identités, tu peux pas lui dire t'en tues une et t'en gardes une. Enfin, c'est pas normal.
Ou sinon, tu mets celle-là en avant et puis celle-là, tu l'éteins. Et puis de temps en temps, on va faire ressortir celle-là parce que ça nous arrange.
Parce qu'il faut faire des gâteaux. Tu sais, il faut faire des gâteaux pour la fête de l'école. Et ça, c'est cool.
C'est ça.
Mais ça, c'est un héritage purement colonial.
Enfin,
de tuer la langue notamment. Et moi aussi, j'ai grandi, je parle pas. Tu vois, je parle pas cantonais parce que ma mère, on m'a dit alors. Il y avait aussi mon père qui n'aurait pas forcément apprécié à dire de comment d'avoir une langue qu'il ne comprend pas à la maison. Mais en plus, vraiment, on a dit à ma mère, et pas que à ma mère, mais vraiment, il faut qu'elle parle français. Il faut qu'elle parle français, on est en France, tu vois. Genre, sinon, ça lui posera des problèmes. Ouais. Ils seront... Enfin, il y a même... ça a même été avancé, la dyslexie. Tu sais, tu deviens dyslexique si jamais tu n'arrivais pas à... Enfin, c'est... Ouais. Alors que... Ça a été démonté, ça a été complètement démonté. Mais c'est vraiment un héritage colonial de se dire, on arrête les transmissions.
Ouais.
C'était ça, l'objectif, c'est-à-dire que t'allais à l'école, t'arrêtais, t'avais plus le droit de parler la langue. On te coupait de ton héritage, et c'est ce qui est fait encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est aussi important, de justement, d'essayer de renouer avec ça.
Et puis, aujourd'hui, on nous dit de faire parler les enfants anglais. Alors, pourquoi, en fait, nos langues, elles sont handicapantes ?
Avant 5-6 ans, il peut apprendre plusieurs langues. Au contraire, c'est le meilleur moment pour lui d'apprendre plusieurs langues. C'est après que ça devient difficile. Donc c'est très marrant de dire ça parce que c'est faux.
Bah, c'est faux et en fait c'est oppressif, c'est fait exprès parce que moi du coup, par exemple, mes grands-parents du coup, ils parlent pas hyper bien français. Ben, moi je les ai toujours vus comme en gros des personnes inférieures. Et que... c'était des profs trop bizarres de genre des profs qui sont payés 1 500 € et qui ont zéro vraiment appel de vie. Enfin, ils sont juste là à recracher de la propagande d'État, tu vois, sur des enfants innocents. Et c'est eux que je voyais comme les modèles. Parce que juste, ils parlaient bien français. C'est ça qui me fait peur aujourd'hui.
On recommande les choses d'une autre manière, en fait. Nos parents, ils parlent plusieurs langues, finalement. Oui. Au contraire, c'est une richesse de savoir parler plusieurs langues dès le départ. Ma langue maternelle, ma langue de ma terre d'accueil. Et après l'anglais à l'école, parce qu'on nous l'impose aussi, donc ça fait trois langues au final.
Oui. Et de savoir switcher en différents modèles culturels, c'est hyper intelligent.
Mais c'est pas valorisé
c'est
aujourd'hui.
C'est ça qui est génial, vous ne voyez pas les choses de cette manière-là.
Non, mais c'est même aujourd'hui, c'est pas valorisé. Aujourd'hui, tu mets sur ton CV, tu parles français et créole.
Non, c'est créole, oui, bien sûr.
Tu vois, tu français et arabe, à la limite, et encore si tu veux travailler dans les Émirats, et encore, tu vois. Mais sinon, c'est pas valorisé. Non, on est d'accord sur ça. Donc, ma question suivante, les filles, c'est dans la façon dont vous êtes construites. Quelles sont les conséquences en fait, de ne pas avoir eu de personnes qui vous ressemblaient ?
Moi, la conséquence logique, encore une fois, j'étais un enfant très rationnel, c'était de mourir en fait. Il n'y avait pas d'autre solution. Enfin, juste mon corps était vu comme un corps moche, dysfonctionnel, etc. Mon intelligence, elle n'était pas valorisée. Mes idées, elles étaient vues comme folles. Enfin, au bout d'un moment, voilà, enfin, c'est ça. Enfin, c'est la volonté de juste être un rien, un néant, en fait, pour arrêter la souffrance. Donc, pour moi, ça a été ça, la conséquence, c'est que j'avais pas envie de vivre dans un monde qui voulait pas de moi.
T'avais des pensées suicidaires.
Ouais, en tant qu'enfant, mais ça, c'est... Il y a beaucoup d'enfants dépressifs aussi. C'est juste que, après, j'en étais pas consciente, enfin, voilà, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois, et après, donc ça, c'était la conséquence négative. La conséquence positive, c'est qu'après, la vie arrive et il n'y a pas que la société, il n'y a pas que l'oppression sociale, il y a aussi le miracle de la vie. Et ça a fait que, après, je me suis justement rendu compte que je pouvais créer mes propres trucs. Et donc là, c'est en ça que c'était super bien.
Mais là, quand je dis ça, je me rends compte à quel point la représentation, ça compte. Mais vraiment, pour un enfant surtout qui vient d'arriver et que. Enfin, en fait, c'est normal, c'est un droit de naître et de se voir. Pour se sentir légitime, considéré, reconnu, c'est un vrai droit. Comme sinon, on peut être amené à penser comme
ça. C'est ça que quand je pensais, je me dis c'est hyper violent. J'ai pas le souvenir d'avoir pensé ça, mais t'as raison. C'est vrai que la conséquence, je pense qu'il y a plein d'enfants en fait qui ont dû ressentir ça. Peut-être pas l'exprimer dans ces termes-là parce que comme je dis, c'est inconscient en fait.
À cet âge-là, tu vois.
T'as pas les
juste dire ça, je me vois pas, donc j'ai envie de non.
Mais en plus, la mort, elle a plusieurs symboles. C'est pas forcément la mort
physique,
ça peut être une mort symbolique. Il y a plein de gens qui ne vivent pas leur vie, déjà, qui restent dans l'invisibilité, qui ont une vie qui est de l'anorexie sociale, où ils ont un petit cercle, mais pas les autres. Ils vivent pas leur appel de vie, en fait. Ils sont pas là à vouloir être en expansion. Donc ça, c'est des conséquences, c'est de pas vivre, en fait. C'est une façon de pas vivre. Il y a une façon aussi de ne pas vivre pour les personnes de couleur, c'est de vivre dans les codes blancs.
C'est ça, en tant que hyper intégrée.
Voilà, ouais, comme Kamala Harris. Enfin, elle a beau avoir le packaging, mais elle est blanche à l'intérieur. Elle sert l'ordre blanc. Et donc ça, j'aurais pu aussi le vivre comme ça. C'est une façon très valorisée de vivre en tant que personne de couleur en France, par exemple. Être au service de l'État.
Sans forcément l'État, je pense que de base, hein, je pense que je me suis beaucoup construite sur des codes blancs, tu vois. Et majoritairement, d'ailleurs, sur des codes blancs, avant de pouvoir réfléchir un peu différemment et de sortir de ça. Mais moi, je suis un pur produit de l'école républicaine, tu vois, alors voilà. Et, tu sais, genre parcours hyper linéaire. Enfin, tu vois, je sais pas, mais puis au fur et à mesure où tu avances dans tes études, tu vois que c'est quand même... de plus en plus blanc, de moins en moins racisé, tu vois. Alors, donc, tu dis, bon, j'ai réussi, t'intègres aussi le quand tu veux, tu peux, tu vois, genre ce fameux, comme s'il s'agissait uniquement d'une méritocratie, et puis d'une question de volonté, en fait, et que, on te sort quelques tokens, tu vois, genre, si cette personne, elle a réussi, je vois pas pourquoi t'y arriverais pas. Je sais pas, parce que plafond de verre, sexiste, raciste. Enfin, tu vois, je veux dire, classiste, tu vois, genre, you name it, quoi. Et donc, voilà. Donc, en effet, moi, j'ai beaucoup construit en tant que quasi blanche. Alors, c'était aussi... mais je suis métisse, donc en effet, j'avais aussi ces codes-là. C'est un des points aussi du métissage, c'est que tu as aussi une partie de famille blanche, et donc tu as ces codes aussi blancs, et qu'en même temps, tu te sens jamais légitime nulle part. Et parce qu'on te renvoie toujours à ce que tu représentes et à ce que tu vois, on te pose toujours la question, mais toi, tu ne te vois jamais. Donc en effet, mais parce que les autres ne te voient jamais nulle part ailleurs non plus, donc en fait, ils ne peuvent pas non plus appréhender, te connaître, se poser des questions, parce qu'en fait, la plupart des gens ne se posent pas de questions. Enfin, voilà. C'est là où c'est vraiment important de se voir et de se voir dans une multiplicité, parce qu'on a le droit à plein de choses. Il y a les rôles modèles ultra positifs, je pensais à des femmes fortes, blablabla, mais en fait, aussi des humains, des humaines, tu vois, genre avec leurs faiblesses, qui rebondissent ou pas, qui prennent le temps d'accueillir ces émotions ultra difficiles pour en ressortir, en fait, et pour, en effet, derrière, bah, réussir à créer là-dessus et apporter sa propre voix.
Ouais. Et moi, je reviens sur ce que je disais d'abord, sur le fait que les handicaps sociaux, en fait, c'est ça, les vrais privilèges, et que les privilèges, c'est les vrais handicaps sociaux. C'est que, par exemple, en ayant détesté mon corps tellement longtemps à cause de cette suite logique un peu mécanique, ce déterminisme social, il m'a permis aussi de maintenant accéder à une libération de mon corps que je pense que des personnes dominantes n'ont pas. C'est-à-dire que je vois toujours les hommes blancs, mais je suis toujours choquée de comment ils traitent leur corps. En fait, ils sont pas dans leur corps, juste ça. Ils désirent le corps des femmes, des autres corps, etc., qu'ils veulent consommer, mais c'est pas des gens qui sont connectés. Et aujourd'hui, moi, enfin, on me dit tout le temps, mais t'es hyper à l'aise, à poil et tout, t'as une vraie... voilà. Et moi, je me dis, mais c'est le résultat d'un travail. Je m'en rends plus compte aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai un accès, par exemple, à ma liberté sexuelle, au travers de la masturbation, etc., tous les trucs que j'ai découverts, ça me donne un savoir qui est beaucoup plus supérieur à ce que j'aurais eu si j'avais été même au top de la norme, en fait. J'aurais eu un truc qui est quand même cloisonné et qui aurait été, avec des hommes, par exemple, ou des choses qui seraient dépendantes d'autres choses, alors que là, maintenant, j'ai une connexion qui est à moi, en fait, avec moi-même, et ça, c'est inaliénable, et c'est en ça que c'est hyper puissant, donc... En fait, merci, quoi. Limite, des fois, je me dis merci d'avoir été rejetée parce que ça m'a permis de ne pas être dépendant d'une société de privilèges. Les hommes blancs sont hyper dépendants de ces privilèges. Et d'entre eux, c'est pour ça qu'il y a un entre-soi, c'est pour ça qu'ils ne se dénoncent pas quand ils violent, etc. C'est parce qu'en fait, tout leur mérite n'est que dessus. Leur survie sociétale et économique n'est que dessus. Donc, ils n'ont même pas la liberté de parole, comme aujourd'hui, moi, je l'ai. Enfin, je veux dire, j'ai rien, donc je ne vais rien avoir à perdre.
Ouais. Alors que c'est clairement autre chose, c'est clair. C'est clair. Toi, Ashley, du coup, est-ce que tu as vu des conséquences de cette sous-représentation ? On a un peu parlé tout à l'heure, mais.
Ouais, ben moi, quand j'étais petite, encore une fois, quand j'étais petite, encore pareil, j'étais dans un milieu où c'était très mixte, donc en soi, on était tous ensemble, donc je voyais pas forcément la différence. En grandissant, oui, donc en étant adolescente, notamment, je m'identifiais beaucoup aux Américaines, donc forcément, je voulais aller aux États-Unis, vivre le rêve américain, etc. Et moi, c'était surtout capillairement, au niveau de mes cheveux. Au niveau de mes cheveux, je me suis toujours défrisée. Tu vois, je me défrisais les cheveux depuis que je suis petite. Ma mère, elle me défrisait. Je ne connaissais pas une autre forme de coiffure pour mes cheveux crépus. Moi, ça n'existait pas. Donc, je me défrisais très, très souvent. Si ce n'était pas ça, c'était des rajouts. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le même rapport aux rajouts que j'avais avant. Avant, c'était vraiment mes cheveux, c'était ma coiffure.
Oui.
Toute l'année.
Donc, tu n'étais pas coiffée, en fait. Voilà. C'était soit défrisée, soit des tresses, parce que sinon, en fait, ça n'existe pas.
Sur les 12 mois, j'avais toujours une coiffure. Et entre-temps, le temps de transition, c'était pour laver mes cheveux et refaire un défrisage, me recoiffer. Donc, pour moi, c'était pas possible d'avoir mes cheveux parce que je voyais ça nulle part. Et en plus, c'est pas normal, quoi.
En fait, tu l'envisages même pas.
Même pas, exactement. J'envisage pas. Jusqu'au moment où j'ai commencé à m'intéresser à mes cheveux, en fait. Qui j'étais avec mes cheveux crépus, comment on pouvait s'en occuper, comment ça se passe. Et pour moi, ça a chamboulé plein de choses. Parce que forcément, qui dit cheveux dit identité, dit histoire, culture. Et après, j'ouvre tout un truc. Et c'est parti de là, en fait.
Les cheveux, c'est aussi ça, un de mes sujets.
Donc. Ouais, en train des femmes noires, c'est une autre chose. C'est clair, un vrai sujet. Et en apprenant, là, j'ai eu des clics. Je me me suis dit, attends, c'est grave. Après, je me suis rendu compte de plein de choses, d'où après les initiatives qu'on suit.
Ouais, du coup, c'est ça, tu tires un fil de la pelote de laine.
Finalement, en fait, ouais, dis, voilà.
Ah ouais, en fait.
C'est ça. Mais du coup, les conséquences, ouais, je dirais que c'est sur moi, ma personne, le fait de m'assumer, de m'accepter comme j'étais, avec mes cheveux. Moi, en tant que femme noire aussi, tout simplement. Et mon histoire aussi. L'histoire des noirs en général, etc.
Ouais, hyper intéressant.
Je crois que ça joue beaucoup de. Cette connaissance, elle joue beaucoup sur la légitimité que tu as, tu vois, et que tu ressens parce que.
Ouais.
En fait, jusqu'à m'intéresser à vraiment les questions et de féminisme et d'antiracisme, enfin, en fait, je me suis rendu compte que je me sentais chez moi nulle part, en fait. Tu vois, genre, en fait, on me renvoyait tellement au fait que j'étais pas... Enfin, si je montrais pas ma carte d'identité, en fait, j'étais pas française, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, voilà, en tant que métisse, m'a demandé si j'étais adoptée, si... Enfin, je viens d'où ? Enfin, tu sais, toutes ces questions tout le temps perpétuelles, enfin... Vous apprends rien, mais en fait connaître cette histoire et cette histoire qu'on raconte jamais réellement sur la colonisation, sur l'appropriation culturelle, sur enfin en fait ça crée ce sentiment de légitimité que t'as jamais eu parce que jusqu'à présent t'étais toujours l'autre, cette altérisation, tu es l'autre, tu es la différence, tu vois, genre alors que la preuve que non. mais voilà, et donc, et c'est très aliénant. T'as vraiment plus l'impression d'être une personne, t'es... Enfin, voilà, c'est... Vous ressemblez tous, quoi, et toutes et tous, et... Voilà, c'est pareil, c'est interchangeable, tu vois, et ça... Et c'est très difficile à vivre, et je pense que cette connaissance-là, c'est vraiment ce qui te légitime, et la propager, et se voir représenter dans cette histoire... et dans cette actualité aujourd'hui, enfin dans ce quotidien aujourd'hui, c'est vital en fait.
Ouais.
C'est vital pour nous, pour notre ancrage et pour notre légitimité encore une fois.
Mille fois. J'avais une question pour toi, Charline, parce que effectivement t'es métisse, donc ton père est blanc et ta mère asiatique, mais tu ressembles à une asiatique, donc les gens t'identifient asiatique. Est-ce que du coup toi, tu te considères aussi comme blanche ?
Non. Pas du tout. Non, ouais, je t'assure. Enfin, c'est... En fait, j'ai longtemps navigué entre les deux. Où je me suis dit, bah ouais, c'est cool, tu sais, genre, prends les codes qui m'intéressent dans les deux côtés, tout ça, voilà, en fait. Et je me suis construit avec, comme je te disais tout à l'heure, hein, avec des codes blancs, beaucoup de codes blancs. Mais en fait, malgré tout ça, on m'a toujours renvoyé à mon asianité, tu vois. Et c'est marqué sur ma figure, tu vois, genre, je peux rien faire. Et donc en fait, très rapidement, ça m'a pas intéressée non plus d'être, tu vois, de surfer dessus, oui, tu vois, genre parce que fallait réussir, tu vois, tu parlais de sortir de sa classe aussi tout à l'heure, enfin pour avancer en fait, fallait surfer dessus et sur ses codes, mais en fait. Il y a un truc aussi, après ça c'est de l'ordre de la personnalité, où j'ai toujours voulu être différente, tu vois, marquer une différence, et donc ça m'a bien servi aussi en tant que personne, mais non, en fait je suis pas, et aujourd'hui, alors que la question métisse est une vraie question à part entière, qu'il faut absolument aborder, c'est un vrai sujet, il faut, voilà, parce que rien que le terme, si on en revient à la colonisation, et à ce que ça veut dire concrètement, et toujours ce rappel à la biologie, soi-disant, genre, tu vois pas les couleurs, genre, il y a qu'une seule race, sauf quand t'es métisse, tu vois, genre, là, par contre, on voit bien, jusqu'à en inventer, même, enfin, dans les hiérarchies métisses, tu vois, inventer, moi, je disais, au départ, enfin, quand j'étais petite, on me disait pas métisse, on me disait, ah, t'es pas métisse, t'es eurasienne, tu vois, genre, pour faire la différence, parce que métisse, c'était noir et blanc, tu vois, ouais. Donc, alors que, enfin, c'est... Donc là, encore une fois, c'est remettre une hiérarchie, c'est contribuer à cette hiérarchie, alors que pas du tout, enfin, cette hiérarchie raciale, tu vois.
Ouais.
Et donc, en fait, aujourd'hui, je me revendique asiatique. Enfin, vraiment, je suis asiatique de façon, enfin, asiatiqueté même, parce que, hein, mais pour l'Est asiatique, on colle, on me voit, il n'y a pas de question, tu vois.
Ouais.
Et donc, ah, mais non, je me considère pas du tout blanche, tu vois, parce qu'on ne m'a pas du tout construite comme ça et on ne me renvoie pas du tout non plus cette image.
Ouais. Rapidement, ça aurait pu être différent si t'étais sortie blonde avec des yeux...
Alors c'est un autre... Je pense que le white passing, donc le fait de, pour le coup, beaucoup ressembler des personnes blanches, c'est d'autres problématiques et des fois aussi de réappropriation de ces cultures non blanches, qu'elles soient, parce que bah, des fois tu portes le nom et t'en as pas la tête, ouais. Des fois tu, enfin voilà, et t'as envie de te le t'approprier parce que c'est une partie de ton identité et que tu peux pas parce que justement tu ressembles trop à une personne blanche. Donc c'est enfin c'est d'autres problématiques. C'est d'autres,
ça aurait pu être différent, mais tu aurais vécu d'autres choses. En fait.
Ouais, ce sera, ça sera, ça serait vraiment une autre, je pense, enfin un autre vécu.
Ouais.
Mais pour le coup, moi c'est bien passé quoi. Donc, voilà. Et c'est passé aussi sur sur mon enfant, donc voilà, ça va se jouer.
Ouais. Bah, ok. Mais il sera armé, plus armé que toi en tout cas.
Bah, c'est ce qu'on essaye aujourd'hui à travers les représentations, et ça dès le plus jeune âge, tu vois, genre aux États-Unis, les études elles montrent que dès 2 ans, t'as intégré ces marqueurs raciaux, et donc le fait que t'aies subi déjà des éléments, enfin des insultes, ou en tout cas t'as subi le racisme dès 2 ans en fait, déjà, et t'en es déjà conscient, enfin inconsciemment en tout cas, tu le sais déjà, et t'as agi déjà différemment. C'est aussi ça, la charge raciale, c'est aussi ça, la menace du stéréotype, c'est de se dire, bah voilà, comme on te l'a déjà dit, tu vois, genre, bon, comment tu fais maintenant? Tu rentres dans les stéréotypes, tu en veux en sortir, tu fais comment? Et toujours cette charge, mais dès 2 ans, c'est déjà intégré, parce que tu t'es pas vu, parce qu'il y a ce test de la poupée noire qui est,
ouais,
qui est flagrant, tu vois, genre, qui est assez dur, voilà, disons-le. Et voilà, et quand tu t'es pas vu, quand t'existes pas dans cette société, parce qu'au final, se représenter, c'est exister.
Ouais,
on parlait de légitimer, mais genre, tu te vois pas, bah, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, genre, le miroir, il suffit pas. Genre, je suis qui dans cette société?
Où est ma place?
Et aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre enfant, à travers notamment beaucoup la bibliothèque jeunesse, parce que c'est le premier miroir de la société, le premier entrée, et ça sera le cas avec les dessins animés, avec plein de choses. Et en effet, c'est des armes. C'est des armes pour se protéger, pour pouvoir riposter. Et moi, aujourd'hui, j'en suis à surtout pas dire à mon enfant que c'est pas OK, enfin, que c'est OK d'être insulté et d'avancer, et qu'il faut avancer. Non, c'est on accueille et voilà, on est là en séance coaching le soir. Genre, ton avis, je m'en fiche, il répète. Enfin, c'est voilà, tu vois, genre. Et c'est à la fois très dur de se dire qu'à 4 ans, 3, 4 ans, il faut le faire. Et en même temps.
C'est nécessaire.
Tu vois, parce qu'aujourd'hui, il est là, bah ouais, bon, mes cheveux, je kiffe. Enfin, tu vois, genre, et c'est un vrai point, quoi. C'est essentiel, vital.
Super, les filles, merci. Ma prochaine question, c'est est-ce que selon vous, les femmes racisées, donc nous, est-ce qu'on a une part de responsabilité dans notre propre invisibilisation?
Pas du tout. non, je trouve pas, au contraire. Au contraire, on ne demande pas. On demande qu'à être vu, mais après je me dis dans quel sens tu poses la question. Est-ce que c'est à nous de donner cette visibilité, ou est-ce qu'on doit attendre
Est-ce qu'on aurait pu, alors, ça peut être dans les deux sens, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour être plus vu?
Ouais.
Est-ce qu'on doit demander plus?
Ouais.
Est-ce qu'on a un champ d'action sur lequel on n'agit pas, qui fait qu'on est aussi responsable de cette invisibilisation?
Vas-y. Dans ce cas-là, quand on est enfant, absolument pas. On est un enfant, à partir du moment où je nais, d'accord, je demande à être visible.
C'est mon droit de base.
Fondamental. Après, en grandissant, en étant adulte et tout, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, dans ce cas-là, on prend la parole, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà.
Mais en fait, cette question, elle est intéressante parce qu'elle s'appuie sur la vision individualiste et où, en gros, la responsabilité de l'individu est disproportionnée par rapport... on évacue toutes les questions de domination sociale, en fait, d'oppression qui existent, en fait. Donc oui, si on enlève la sociologie, on peut dire, bah, vas-y, fais-le, t'es libre, t'es en France, fais ce que tu veux, fais ton rêve américain à la française, enfin, ok. Mais en fait, effectivement, il y a des parts, je pense, qui sont réelles de responsabilité. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure des personnes qui suivent les codes blancs alors qu'elles sont racisées. Donc, par exemple, Priyanka Chopra, j'avoue que c'est énervant parce qu'elle prend la place des autres en se faisant passer pour indienne, alors qu'elle ne fait rien, enfin, ça n'a pas l'intérêt de faire ça. Donc, donc elle prend la place. Il y a d'autres choses, donc par exemple, on peut se dire, on pourrait faire beaucoup de psy pour enlever tout le trauma générationnel, etc. Oui, on peut faire ça pour Mais en fait, c'est énormément d'argent. Il faut y avoir accès, de, voilà, il faut avoir accès à toutes ces façons. Il faut avoir du temps quand, en plus, il y a la pauvreté qui arrive. Parce que quand tu parlais tout à l'heure des conséquences de la surreprésentation, c'est aussi ça. C'est la pauvreté transgénérationnelle et qui n'est pas déconstruite. Et juste, on a appris dans nos familles à être discrète et à ne pas avoir d'idées politiques. Donc, en plus, on est dépolitisé. Donc, en plus, ça amplifie les, du coup, les discriminations sur, pour les générations futures. Enfin, je veux dire, c'est, y a tellement de choses. Donc oui, bien sûr, il y a une part de, petite part de responsabilité où on pourrait se faire confiance et peut-être qu'on ne le fait pas assez. Mais vu les modèles familiaux dans lesquels on a grandi, avec des parents qui ont toujours rasé les murs, qui n'ont pas, qui ont rien dit, qui devaient juste être reconnaissants d'être en France, à qui on a toujours fait montrer la nationalité comme un badge de supériorité. Et que,
un Graal.
Ouais,
tu vas être français, allez, continue, accroche-toi, tu fais un truc bien, tu vas être français.
Ouais, mais tout en nous disant qu'en gros, on peut être éjecté dès que ça ne va pas, quoi.
Bien sûr. C'est clair. Donc, c'est, ça me fait penser au... Ça me fait totalement penser à, je rappelle, c'est Mamadou qui s'appelait, ce jeune là qui a sauvé l'enfant, celui qui a sauvé l'enfant, tu vois.
Il a directement été naturalisé.
Voilà, naturalisé, genre t'as fait une bonne action, voilà, t'as récompense. Bon, ouais. Et je me rappelle qu'il y a un humoriste qui avait dit ça, mais en fait s'il avait lâché, ce serait passé quoi.
C'est ça.
Tu vois, tu as eu presque eu ta nationalité.
C'est ça.
Non, c'est genre.
Je suis d'accord avec toi, ça se transmet tous ces codes-là.
Bien sûr.
Combien même on veut faire la différence, on a aussi une grosse part de barrières et croyances limitantes
qui sont
dues à ça. En fait.
Qui sont inculquées, qui nous sont inculquées. Ouais.
Et c'est rationnel. Vrai. Moi, j'en veux pas à mes parents et à ma famille parce qu'en fait, c'était des mécanismes de survie. Dans la société où on est, il y a des mécanismes de sanctions qui s'appliquent direct. Ça peut être la sanction physique, comme on a dit la dernière fois, enfin, avec les violences policières et tout ça, bon, ok. Ça peut être des féminicides, enfin, ça peut être des trucs vraiment de mort. Après, ça peut être des choses plus symboliques aussi. Ça peut être, par exemple, pour prendre l'exemple des femmes, enfin, le fait de, dès qu'on dit quelque chose, on est traité de folle, hystérique. Bon, ouais. Ça, c'est un truc historique, mais ça, c'est pas un truc du Moyen-Âge, c'est un truc avec Britney Spears aujourd'hui. Enfin, c'est pas des choses. Et ça, c'est Britney Spears, c'est intéressant parce que c'était quand même l'idole de toute une génération. Et aujourd'hui, elle est vue comme folle. Enfin, c'est quand même important.
Par même temps, il y a raison. Et surtout que quand on a un enfant, bah, on imprègne tous les codes, comportements, langage, formel ou informel que bah, notre entourage a, nos parents déjà. Ensuite, on va refaire. Même si on le veut ou on ne veut pas ou on n'est pas d'accord, on va le refaire.
C'est imprimé. Donc, c'est les codes intrinsèques, c'est les trucs que tu... Après,
et puis la sanction, elle est partout. Parce que par exemple, si par exemple je parle... On me disait tout à l'heure que j'avais un ton de voix agréable et tout. Ça, c'est du résultat de conditionnement. C'est comment j'ai compris, comment me faire écouter dans un monde blanc. Mais sinon, bien sûr que je m'énerve. Et quand je m'énerve, par contre, je sais que je ne suis pas prise en entretien d'embauche. Parce qu'on me trouve instable, ou émotionnelle, ou ethnique, en fait, tout simplement. Donc, à force, ça se travaille. De perdre son authenticité, d'avoir l'impression que dès que je fais quelque chose, je marche sur des œufs et qu'il ne faut pas que je rentre dans parler de charges raciales, etc. C'est ça, donc... J'ai l'impression que en tant que responsabilité, ce qui peut être aussi vu, c'est tout ce que, par exemple, le conte Histoire Crépue fait. C'est se réapproprier aussi l'histoire, d'essayer de chercher, de faire ses propres recherches, parce que vraiment, vous parliez tout à l'heure toutes les deux d'histoire, je pense qu'en étant démunis de notre propre histoire, et ça c'est le colonialisme qui a effacé tout, bah, on ne sait pas qui on est, donc moi c'est pour ça que j'ai appris la Deuxième Guerre mondiale et tout, alors que personne dans ma famille avait vécu ça. J'ai appris des trucs sur les Juifs et tout, bon c'est très intéressant, mais en vrai j'aurais pu apprendre des trucs sur d'autres cultures comme ça, intéressantes, genre le Cambodge je ne connais pas grand chose, et j'ai appris que la même histoire tout le temps, et c'était tout le temps, au brevet, au bac, les mêmes trucs. Voilà. Et c'est ça qu'on valorisait. Parce que si je l'apprenais le Cambodge, eh ben, j'aurais pas eu des...
Non, mais quand vous auriez été hors sujet, et donc du coup, tu ne rentres pas, et donc du coup, c'est ça.
C'est là qu'on voit qu'en fait, on n'est pas, on n'a pas de responsabilité dans notre invisibilisation, mais qu'on peut avoir un poids sur notre visibilisation et prendre la parole, nous raconter notre histoire, même si c'est des recherches qui ne sont pas faciles, ce n'est pas dans tes bouquins d'histoire, hein, voilà. C'est raconter notre point de vue. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, c'est super lourd. C'est une grosse responsabilité, pour le coup. C'est un poids, c'est une charge énorme. Et donc, en fait, c'est pourtant essentiel. C'est essentiel de se raconter et donner peut-être ainsi à d'autres personnes l'envie de se raconter. Et d'être représenté justement parce que dans les représentations, il y a aussi, genre, il y a la réalité et puis il y a le biais.
Il y a les stéréotypes,
biais racistes, coloniales, etc. On veut bien te lancer et te laisser seulement, tu vois, genre, voilà, mais c'est tout.
Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai même, c'est hyper important ce que tu dis, parce que pour déjà se raconter, il faut déjà, on a un gros travail de recherche.
Bien sûr. Déjà, oui,
c'est tout le travail de recherche. Et moi, c'est ça, je pense, que ce soit dans mon féminisme, mais avant même mon féminisme, dans ma négritude, dans mon histoire, c'est tout ce que j'ai pas appris. Enfin, si tu regardes en France, l'histoire du noir commence à l'esclavage, le commerce strangulateur.
Mais c'est pas.
Personne ne parlait. Personne ne parlait de l'Empire du Mali. Personne n'a parlé de l'époque. Et même, je me dis, mais l'Afrique au Moyen Âge, c'était comment? Personne ne m'en parle.
Non, mais
Mais en fait, c'est au-delà de ça. C'est vous êtes. C'est vraiment arrivé à l'esclavage et ça s'arrête à l'esclavage. C'est-à-dire qu'on ne parle des noirs. Et après, s'il y a Usain Bolt. Genre, voilà. Non mais
il y a le
sport, enfin, c'est hyper caricatural.
Ouais, Césaire un jour, il y a
voilà. Non mais enfin, je veux dire, c'est hyper caricatural et c'est tout ce qu'il y a. Parce que non seulement ça commence à l'esclavage, mais en fait ça s'arrête à l'esclavage. Et après, t'as quoi? T'as le sport, parler d'Aimé Césaire un petit peu, enfin voilà, mais j'ai rien encore, c'est pas étudié à l'école, enfin voilà. Et mais encore aujourd'hui, tu poses la question dans le... Enfin, le salon du livre jeunesse de la Nina, donc celui qui se tient quand même à Montreuil, avait une sélection et la directrice ou présidente, je ne sais pas, disait « Mais si, on a de la diversité dans notre sélection, etc. » Il y a deux livres qui parlent d'esclavage.
Super. Et là, tu as envie de dire ?
Le quotidien.
Bravo,
quoi. C'est ça, tu vois. Wow. Et la question du journaliste, c'était « Est-ce que vous avez des livres qui parlent aussi du quotidien des enfants ?» Alors, je crois que c'était vraiment noir, pour le coup, la question, mais donc des enfants racisés. Et la présidente, elle dit « On a dans notre sélection deux livres, et c'était deux livres sur l'esclavage, et même pas écrits par des personnes concernées. » Tu vois, c'est ça.
T'as envie d'applaudir, t'as envie d'applaudir et dire « Ok. » Wow.
Et
tout le
journaliste,
elle
répondait
« Quoi ?» Le journaliste, il a rien d'autre très bon. Il dit « Ah ouais, mais tu sais, genre, c'est un journaliste blanc. »
Mais si tu veux, c'est ça la réalité. Et de se dire que t'as un homme blanc, d'âge mature, je sais pas quel âge, là, tu vois, qui se dit, donc qui est auteur, et qui est ok pour dire « Je suis capable de me mettre dans la peau d'une adolescente noire qui vit la grande aventure de l'esclavage. » C'est littéral, tu vois, genre, je veux pas le citer, mais voilà.
Oui, mais
c'est exactement ça. Et c'est ça, cette présomption, tu vois, genre, c'est ça, cette légitimité qu'on nous refuse aussi. Et dans les représentations, tu peux pas me dire que c'est ok. Tu
Totalement.
Vois, c'est pas possible. En fait, l'histoire, c'est hyper stratégique parce que c'est comme ça que tu en gros, c'est le pouvoir des gens qui ont gagné. Donc, c'est ça l'histoire. Et en fait, en nous refusant une histoire, en la cachant ou en tout cas en la rendant pas accessible et tout, ça fait comme si en fait notre champ des possibles il devient limité. Donc, soit esclave, etc. Soit juste. Enfin, moi j'ai Gandhi, quoi. Genre, enfin, moi il m'inspire pas. Je dis, monsieur qui a violé des enfants et qui d'accord, il était pacifique envers les blancs, mais bon, il a été oppressif avec d'autres gens. Donc, enfin, je veux dire, c'est ça qui va pas. Et en plus, pour les blancs, leur histoire, elle est empowering parce qu'ils ont des gens, genre, ils ont Napoléon, enfin, je sais pas
quel. Ils ont la bonne place, en fait, c'est ça.
Oui, voilà, ils ont la bonne place et ils ont de la diversité de gens, en fait. Ils ont plusieurs personnes, ils ont des rois, des reines.
C'est ça,
plusieurs. Ils ont et l'oppressif et le sauveur blanc. Parce que c'est ça qui est tout l'avantage, c'est que comme les actes, notamment sur la décolonisation, ils ont été signés par des blancs, genre ça y est, c'est eux, tu vois, genre ils sont battus pour, tu vois, c'est alors vrai. Que...
Si tu regardes, en plus, tu creuses des trucs...
Ça s'est pas tellement passé comme ça, tu vois, oui, genre, on donne pas le pouvoir quand on l'a, et voilà, c'est parce qu'il y a eu...
Regardé, je te coupe.
Vas-y, non.
J'ai regardé sur Arte le documentaire en quatre parties aussi, sur la colonisation, la décolonisation.
Faut que je le regarde, mais apparemment, tu...
j'ai l'impression que je prenais des cours d'histoire et je me suis dit waouh,
on m'a menti,
on m'a caché des choses parce que dans nos têtes il y a une histoire, il y a un héros comme tu l'as dit,
c'est écrit par le vainqueur, en fait l'histoire
est écrite par personne qui se défend, il y a pas de personne qui cherche à se rebeller, donc nous on se dit ok, ça a été comme ça, mais là c'est une claque, en fait.
Mais je pense que donc il y a un effort à faire, donc effectivement, pour qu'il y ait plus de visibilité dessus, mais il y a aussi un effort, comme je disais tout à l'heure, sur l'interne. C'est-à-dire que nous, on a aussi une marge de liberté dans ça. C'est-à-dire que, déjà, y a, dans l'histoire, il y a l'historiographie aussi, il y a la façon de créer de l'histoire, il y a le fait de chercher un truc scientifique. Le truc scientifique, c'est une façon de nous annuler, en fait. C'est-à-dire que, bah, en plus, moi, enfin, j'ai d'un truc où c'était hyper oral, donc, enfin, il n'y a pas de preuves, en plus, donc qu'est-ce que je vais faire ? Donc, En fait, il y a aussi, moi, je travaille sur le fait de imaginer aussi les histoires que j'ai envie de raconter. Mmh. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans la mythologie indienne, hindoue, par exemple, je regarde les histoires qui, moi, m'inspirent, je les sélectionne. Il y a souvent plusieurs versions, parce qu'en plus, l'Inde, il y a plusieurs cultures et tout dedans. Donc, il y a plein de versions. Et puis, l'hindouisme, on n'a pas un dogme, c'est pas une église, etc. Et du coup, je choisis, par exemple, des trucs où ça va être sur les règles, où ça va être sur des femmes qui ont plusieurs hommes, des choses qui, moi, me parlent avec mes valeurs. Et je décide que c'est ça mon histoire, parce que j'accepte que j'aurai pas la vérité. Et encore une fois, pour moi, c'est libérateur ce vide, en fait. Ouais. Pour pas que... Alors que si j'avais été blanche, on m'aurait dit, ben, c'est ta vie, c'est Napoléon, la guerre, enfin, des trucs comme ça. J'aurais été limitée, en fait. Alors que là, je peux me réinventer parce que personne n'a dit d'où je venais, en fait.
Top, merci beaucoup les filles du coup pour tout ça, c'est très riche. J'ai une dernière question rapidement, c'est aujourd'hui nous toutes, on est là parce que à notre échelle on agit, on casse les codes. Et est-ce que le fait de prendre la parole et d'agir comme vous le faites aujourd'hui, ça a un impact sur votre charge raciale? Et du coup, petite définition de la charge raciale. En tout cas moi la façon dont je la définis, c'est le fait que en tant que femme noire, je me sens représentative de la communauté noire et les autres noirs que je vois, qu'ils soient hommes comme femmes. J'ai l'impression qu'il nous représente. Et donc, du coup, quand quelqu'un, en gros, quand un noir ou une noire fait quelque chose de pas correct, je suis là, genre, pourquoi il fait ça, quoi ? Il va blâmer, il va tirer vers le bas toute la communauté, il va faire en sorte que les gens nous identifient comme, voilà, quoi. Il va nourrir les stéréotypes qu'on a déjà sur la communauté noire. Ça, c'est ma définition de la charge raciale et je sais qu'elle est plus large que ça. Donc, je vous laisse compléter, chacune.
Après, plus largement, c'est tout ce que je pense au niveau de la charge raciale, c'est tout ce que tu fais constamment face à l'oppression, notamment raciste, et ce que tu dois en permanence penser, soit à correspondre à ce qu'on attend de toi, ou à l'inverse, à vouloir sortir de ce cadre, en fait. Ouais, et c'est violent, parce que c'est extrêmement violent de part, même sur ce qu'on peut appeler des micro-agressions, mais en réalité, l'accumulation quotidienne rend la chose vraiment très violente, et donc ça fait 32 ans, perso, tu vois, genre, et en fait, c'est pas que physique, c'est d'ailleurs beaucoup psychologique, c'est toutes ces phrases que tu reçois, et comment tu y réponds, et derrière, c'est comment tu te construis avec tout ça en permanence, ouais. Et c'est est-ce qu'en tant que représentante, comme tu disais, de l'asiatique, de la minorité modèle, est-ce que moi je veux faire ça, est-ce que je vais faire autre chose, et en fait c'est très aliénant parce que tu n'es plus une personne, tu représentes
un symbole
et tout ce que tu fais peut avoir un impact et un impact sur toi, surtout, tu vois, genre, et c'est très très aliénant, quoi. C'est pas une réponse très courte.
Non, mais je suis d'accord avec toi parce que ça me fait penser à un commentaire que j'ai reçu sur ma chaîne YouTube. Sur un dessin animé, j'ai une dame qui m'a dit « C'est très bien tout ce que vous faites pour les enfants noirs, etc. Mais j'espère que vous allez vous marier avec un noir. Parce que si vous êtes avec un blanc, ce serait dommage, quoi.
Hein » Ah ouais.
Et là, je me suis dit « Ah ouais, donc en fait, je suis un symbole. » Là, ouais. dans mes choix personnels de vie,
mais tu te dois
je
de
dois faire... de suivre la ligne que j'ai, en fait.
C'est toi, à quelle identité tu
as. Ouais, voilà. Je me suis dit, ah ouais, carrément. Donc, si là, je me marie demain avec un blanc, ça va faire que.
Ça discrédite
tout mon travail, en fait. Alors que pour moi, ça n'a rien à voir.
C'est compliqué, hein.
On parle de ma vie à mon cause. Enfin, quel est le rapport, madame?
Ouais.
Tu vois?
Non, mais c'est un sujet.
Donc, c'est là où on voit que notre parole, on essaie toujours de la délégitimiser et de trouver des excuses tout le temps pour la délégitimiser, et ça peut être fait par tellement de façons. Enfin, moi, quand je vois des hommes blancs corrompus à qui ont fait des trucs de harcèlement sexuel, qui ont violé des gens, genre les ministres par exemple en ce moment, et du coup eux, il n'y a pas de problème de délégitimer leur parole. Nous, il suffit qu'on élève un peu la voix ou qu'on se marie avec un blanc, genre en avoir, enfin, c'est des trucs hors sujet. Il y a tellement de micro-codes qu'on comprend même pas, et tout ça, c'est un champ de mine dans lequel nous on doit évoluer. Alors qu'un homme blanc, genre vraiment hors loi, en fait, juste lui, ça sera ok, et c'est ça la différence. Et moi, en France, je trouve que c'est ça qui est oppressif. Quand tout à l'heure tu parlais de en France, c'est difficile d'avoir deux cultures ou deux identités, c'est pas ça, c'est surtout que en fait, la République, elle est déjà identifiée sur cette identité de mâle blanc qui est invisibilisée, qui est vue comme le neutre, le objectif, et du coup tout ce qui n'est pas ça devient une identité. On est une femme, voilà, on est une femme de couleur ou une personne de couleur, mais on n'est plus, et c'est ça qu'ils veulent pas qu'on valorise en fait. C'est ces autres choses, ils veulent qu'on se mettre dans le moule de on est des Français, tous, la nation, etc. Mais c'est au service de qui? Et quand on pose cette question aujourd'hui, eh ben, on les appelle des islamo-gauchistes et tout ça. Donc il y a une vraie sanction. Moi, ça m'a fait peur ce qui s'est passé sur justement ce tournant de chercher des noises aux universitaires, parce que je me suis dit, si on en est là en France, à aller chercher même. Enfin, le fait d'avoir. Parce que moi, on m'a toujours dit, si tu veux penser, fais une thèse. Ok, moi j'ai fait plein d'études de ouf, sauf que jamais en fait on me disait ok t'as raison, il y avait toujours un autre truc après. Donc moi je commence à en avoir marre d'essayer juste d'accumuler des tentatives d'être légitime, ça a commencé à me fatiguer, et là j'ai compris qu'il fallait juste que je parle, et ceux à qui ça parle tant mieux, et les autres voilà hein.
Tant pis, ouais.
Ouais. On pourra pas avoir raison, mais en fait ce qu'il y a c'est parce que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça ira pas. Enfin, je veux dire, il y aura toujours quelqu'un pour te... tu vois, genre, tu te maries avec quelqu'un de ta communauté, t'es quelqu'un de communautaire. Tu te maries avec un blanc, voilà, t'es quelqu'un de... t'es une prêtre, je sais pas. Enfin, ouais, bref, ou genre où tu comprends pas. Enfin, il y a toujours quelque chose, en fait, et je crois que... il y a autant de... enfin, il y a des vérités, il y a une vérité que personne, tu vois. Je veux dire, chacun a son histoire et la manière de le raconter. Et je pense que c'est là où c'est important, et c'est pour ça qu'on parlait de prendre sa voix et de se représenter presque soi-même, ouais. Tu vois, et même si ça doit servir et ça peut servir à plein d'autres personnes, et tant mieux, mais c'est là où c'est essentiel, c'est de se raconter encore une fois. Après, c'est une charge. Enfin, ouais, moi, pour répondre...
Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup...
On a dévié, mais genre...
Donc, est-ce que ça a un impact sur votre charge raciale, le fait d'agir, enfin de faire ce que vous faites aujourd'hui?
En fait, ça, enfin pour moi, ça a un impact. Déjà parce que je parle à beaucoup plus de personnes que dans ma vie perso. Oh, genre dans mon microcosme. En ce moment, je parle pas à grand monde en plus. Non mais, en fait, c'est que tu t'as ta charge raciale, donc t'as ta vie. Voilà, ça fait comme je te dis, ça fait 32 ans que tu essayes de gérer et d'avancer comme tu peux avec ça. Et quand tu décides de prendre, je pense, une voie qui est une voie politique, publique, tu vois, même si c'est pas forcément, encore une fois, sur les médias mainstream ou à une très, 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 très large audience, mais même toute petite, eh bien, t'es scruté et on te demande d'être extrêmement juste. Il y a un côté, là, ça rejoint en plus la pureté militante, tu vois, genre où vraiment il faut. Être juste sur le mot près, le mot sociologique, alors qu'il y a des choses qui sont vraiment très peu accessibles hein, par le grand public. Donc ça ajoute beaucoup. Moi, je trouve, en plus, tu vois, genre le quotidien, on te demande d'être là, d'être présente, de réagir en permanence sur tout ce qui se passe, et il se passe beaucoup de choses dans la vie, tu vois. Donc ça, c'est un vrai point en plus, et on te dit, voilà, et si t'es pas présent, bah, t'étais où? Et tout d'un coup, t'es plus légitime parce que t'as pas réagi sur quelque chose ou t'as dit un truc un peu, genre, qui était pas ok pour certaines personnes. Et voilà, c'est là où je disais, dans un sens comme dans l'autre, genre, tu peux vraiment être délégitimé, tu vois.
Ouais.
Ça se dit.
Ouais, on s'est
mais on perd une certaine légitimité, ouais. Tu vois, comme quand tu dis pour le choix de ton compagnon ou de ta compagne, voilà, tu vois.
Du coup, toi, ça a un impact dans ta chambre, ça, le fait de...
Bah, du coup, au départ, non, ça allait très très bien, mais après, tu vois, les petites remarques comme ça, j'en ai eu plein, et ouais, après, je me suis dit, ah oui, en fait, j'ai une charge quand même, même si je fais semblant de pas l'avoir, j'en ai une, en fait, ouais. Enfin, une responsabilité, je sais pas si tu peux dire charge, une responsabilité où, je sais pas trop, on s'attend à quelque chose de moi, en fait.
Ouais, du coup, donc, en tant que femme noire, pas juste en tant qu'Ashley.
Donc, ouais, clairement.
Et du coup, comment tu le vis?
C'est trop bien, ça va. Non, là, ça va, franchement, ça va, mais bah, les remarques comme ça, en général, je remets les gens à leur place, en fait, c'est tout. Et je continue parce qu'il faut distinguer deux choses. C'est pas, on ne peut pas tout mélanger, en fait.
Ouais.
Donc après ça, ça va. Okay.
Moi, ça serait deux choses. C'est un, les micro-agressions, tout ça, ça fatigue, en fait. C'est juste, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent chez le psy. Enfin, moi, vraiment, je fais tourner l'économie de la France avec le développement personnel. Voilà, et ça, c'est cool, mais franchement, ça devrait être remboursé par la sécu pour une fois. que je parle de la sécu dans des bons termes, ce serait pour ça, quoi. Mais ça n'est pas justement sur ce truc comme ça qui pourrait vraiment aider. L'autre chose, c'est moi, ça me fatigue le travail émotionnel, le labeur émotionnel qu'il faut fournir, l'éducation gratuite que les gens exigent tout le temps. Moi, j'ai pas que ça à foutre de faire en... Enfin, moi, j'ai appris leur histoire de merde. Je la connais, en fait. J'ai été obligée de l'apprendre. Pourquoi eux, ils peuvent pas se démerder? En plus, maintenant, il y a Internet. Enfin, c'est bon, quoi. C'est pas dans des livres impossibles. Donc, il y a toutes les ressources qui existent. Enfin, vraiment, c'est juste... Mais par contre, de tout le temps exiger que moi, je dois faire la leçon, ça m'énerve parce que moi, même les leçons militantes, etc., que j'ai appris, je suis pas garante de tout. J'ai pas que ça à faire d'apprendre une encyclopédie militante. Ça demande trop d'exigences et ça me limite dans ma créativité. J'ai pas envie d'expliquer des choses que d'autres gens ont dit. J'ai envie de parler pour moi, en fait. Et je veux que ça soit cru. Parce que je l'ai dit, j'ai utilisé ma parole et je voudrais qu'on me croie sur parole et pas qu'on essaye tout le temps de délégitimer. Les hommes blancs, ils le font tout le temps en parlant en présent de vérité générale, avec la République, c'est comme ça, où il faut faire des trucs. Enfin, il n'y a que des injonctions et tout ça, et ça, c'est pas déconstruit. Pourquoi moi, dès que je parle, c'est un point de vue minoritaire, quand je suis interrogée par des journalistes qui sont blancs, etc. Ça va être souvent des façons de me voir qui sont déjà stéréotypées. J'étais sur toutes les brochures de l'école, d'une grande école, etc. Donc, c'est toujours comme ça. Je suis dans des... Et moi, j'ai l'impression qu'on ne veut pas... C'est une autre façon de me surreprésenter, mais tout en me disant qu'on ne veut pas entendre ce que j'ai à dire. Comme les femmes, on est très contente quand elles sont belles et qu'elles font les plantes vertes, mais on ne veut pas qu'elles parlent. On veut juste qu'elles rendent service, qu'elles commandent des taxis, en fait. Ça pose pas de problème.
Ce boulot d'éducation gratuite, déconstruction des autres, c'est un vrai... et c'est au quotidien, c'est-à-dire que même si tu prends pas forcément la parole dans les réseaux, hein, mais la charge raciale, c'est aussi ça, c'est tu vas en soirée, on en parlait l'autre fois, tu vois, genre, tu vas en soirée, tu te prends des trucs, tu vois, genre, en permanence, il faudra expliquer. Et ça, c'est un point important. Après, moi, je crois juste, peut-être pour terminer, ma prise de parole sur les réseaux sociaux, elle m'a aussi beaucoup aidée. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'a permis de trouver d'autres personnes qui partagent ça et avec lesquelles on partage cette charge raciale et on se reconnaît, déjà elle est légitime, c'est-à-dire que les personnes reconnaissent tes émotions, reconnaissent cette charge, la dureté de cette charge et derrière bah, on peut la travailler aussi ensemble, tu vois, genre je pense que c'est le cas des Spicy, tu vois, c'est le cas du PAF, voilà, où bah, on la porte à plusieurs. Et c'est aussi ça la force des réseaux sociaux. Ça allège pas forcément ta charge raciale, mais t'es légitime dans celle-ci. Et ça te permet aussi d'avancer, tu vois, et de construire. Tu en parlais de construire sur cette déconstruction. Et bah, c'est aussi, ça permet aussi ça.
Mais c'est important parce qu'on mutualise les efforts, en fait. Et ça permet aussi de se soutenir dans le fait de valoriser notre travail en le payant aussi. Et ça, c'est important aussi entre militants que ça se passe, quoi.
Après, je suis d'accord avec vous pour l'éducation, mais que celui qui veut s'éduquer s'éduque, en fait.
Ah, clairement.
À un moment donné, on ne peut pas changer la vie tous les jours sur Internet, c'est impossible. Alors là, tu peux t'asseoir. Mais je me dis, si quelqu'un veut en apprendre plus, il va en apprendre plus. Mais c'est ton propre chef, je force personne, par contre. Et ceux qui se reconnaissent, forcément, bah, ils s'identifient à mon travail et c'est très bien.
Ouais.
Mais sinon, je ne force pas plus que ça.
En gros, le mot de la fin, c'est éduquez-vous, quoi. Et...
Ouais. Si vous le voulez, allez-y. Si vous ne voulez pas,
et s'il y a plein de choses à écouter. De toute façon, on est là.
Me parlez pas.
Voilà. Nous, on a une plus-value aussi. C'est justement le fait de connaître l'histoire de la France, parce qu'on est en France, mais de vouloir aussi connaître notre histoire à nous. Mm-hmm. Donc, pour le coup, je trouve que les gagnants, c'est nous, finalement.
Tout à fait. Mille fois.
Voilà.
Les filles, franchement, je pourrais continuer cette conversation pendant des heures, une fois de plus. C'était trop bien. Je vous remercie mille fois, toutes les trois, d'être là, quoi. Franchement, moi, ça m'enrichit beaucoup. Le fait que vous soyez là et qu'on en discute, ça m'enrichit beaucoup. Vous faites mon éducation, désolée. mais dans la sororité, franchement, j'apprécie chacune d'entre vous pour ça.
C'est la fin de cet épisode. Un grand merci de l'avoir écouté. Si le podcast Fagnosa vous a plu, soutenez-nous en lui mettant 5 étoiles et surtout partagez-le parce que ça nous aide énormément. Et pour finir, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de nos actus. Tous les liens sont dans la description. Et à très vite pour un prochain épisode.